Mais qu'en pensent les étoiles ? Mais qu'en pensent les étoiles ?
Sous les étoiles, bien sûr, il y aura toujours des nuits éclaboussées par la lumière de la pleine lune. Bien sûr, les lampadaires de nos rues et les phares de nos voitures ne cesseront pas d'un coup de baguette magique de polluer l'obscurité qui suit le crépuscule et précède l'aube. Bien sûr, le coton des nuages, le voile des brouillards continueront à nous cacher parfois la noire profondeur de la voûte céleste. Demain et pour longtemps encore, nos nuits pourront nous paraître privées d'étoiles. Elles nous plongeront peut-être dans le doute, ou pire, dans le désespoir, à moins qu'elles n'en figurent le romantique reflet. Et pourtant, demain aussi, j'entends dans quelques mois, nous disposerons d'une carte d'étoiles appartenant à notre seule galaxie, dont la richesse et la précision héberleront même les esprits les plus blasés, les âmes les plus sombres. Les scientifiques et les ingénieurs nous parlent d'un milliard d'étoiles dont les positions et les vitesses seront finement mesurées, de centaines de milliers de quasars précisément localisés, sans parler des exoplanètes qui ne manqueront pas d'être repérées. Il leur faudra traiter une masse exorbitante de données tombées du ciel. Au terme de la mission, de la moisson devrions-nous dire, ce nouveau catalogue stellaire occupera un volume équivalent à 250 000 DVD. En termes de précision astronomique, le progrès effectué entre cette mission et la précédente du même type, le satellite Hipparchos, lancé en 1989, ce progrès donc serait équivalent à celui réalisé par les astronomes durant les 2000 années précédentes. Mais arrêtons-nous un instant pour nous demander quelle retombée attendre de cette avalanche de chiffres et de cette nouvelle cartographie du ciel. Certes, nous ne sommes plus à l'époque de Galilée ni de Kepler. Nous ne nous effrayons plus de découvrir que notre Soleil n'est qu'une étoile, parmi des myriades d'autres, une centaine de milliards pour notre seule galaxie, et que notre univers compterait des milliards de galaxies. Nous ne tremblons plus à l'idée de trouver des planètes semblables à la nôtre, autour d'autres étoiles. Pourtant, comment ne pas être pris de vertige lorsque nous considérons tous ces corps célestes emportés dans ces majestueuses spirales qui portent encore, nous racontent les astronomes, les traces de heurts, de confluences, de confusions. Nos satellites et nos télescopes, nos catalogues aussi fournis que le carnet d'adresses de Facebook, nous protégeront-ils du sentiment d'isolement, voire de l'expérience de la médiocrité ? Seulement 1% des étoiles de notre galaxie qui seront mieux connues. Les 99 autres pourcents, les connaîtrons-nous un jour ? Nous ne pouvons continuer à nous appeler Homo sapiens sapiens, l'homme qui sait qu'il sait. Nous savons chaque jour davantage que nous ignorons bien des choses. Dès lors, au terme de cette cosmique mission, nous risquons surtout d'être ramenés à nous-mêmes. Et si la sagesse trouvait précisément ses racines dans ce constat, tel que l'ont décrit Emmanuel Kant ou Jacques Monod ? Le premier disait sa vénération pour « le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi ». Le second, au terme de son ouvrage « Le hasard et la nécessité », écrivait « l'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers, d'où il a émergé par hasard ». Non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part, et Monod concluait, à lui de choisir entre le royaume et les ténèbres. Et si c'était pour cette raison que la mission dont je vous ai parlé a été baptisée Gaïa, du nom de la déesse Terre, la déesse Mère, la déesse des origines, qui mieux qu'elle peut nous inviter à nous interroger ? Sur ce que nous pouvons, sur ce que nous voulons, sur ce que nous espérons être.